On n'est pas seul au monde.
Penser l'avenir de l'anthropologie.
Diversifier les manières d'être au monde.
Il y a une très grande diversité d'existants.
Comment on va restituer un monde complètement fragmenté?
Et comment est-ce qu'on vit avec eux? Et comment est-ce qu'on pourrait essayer de mieux composer avec eux?
Translucide, une émission d'anthropologie sur Radio Campus Paris.
Bienvenue dans Translucide. Je suis Amélie et je suis accompagnée de Julia. Aujourd'hui, nous consacrons une émission au festival Jean Rouch, un festival de cinéma du réel, documentaire et cinéma ethnographique. Nous avons rencontré Nicolas Maille, cinéaste, anthropologue et membre du jury international cette année, et Dominique Laureau qui présente le film Une si longue marche. Tout de suite, on rencontre Nicolas Maille.
Quels récits les personnes immigrées, souvent sans papier, travailleuses et travailleurs du sexe, font-elles de leur vie? C'est une des questions qui traverse le travail cinématographique et ethnographique de Nicolas Maille. Inspiré par les ethnofictions de Jean Rouch, ses films sont coécrits avec les personnes concernées et explorent leurs expériences et représentations de la migration, du travail du sexe et de l'exploitation. Dans son œuvre, Nicolas Maille donne à voir la complexité de ses trajectoires en développant une méthodologie cinématographique, participative et collaborative. Bonjour Nicolas Maille.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue et cinéaste. Cette année, vous êtes membre du jury à la section internationale du festival Jean Rouch. Vous avez mené un projet science et art à travers une trilogie de films, la Sex Work Trilogy, qui réunit les films Normal, Samira et Travel. Vous pouvez compléter si je me trompe.
La trilogie du travail sexuel, c'est une trilogie antécédente à mon travail que j'ai amené en France. Et c'est composé de deux films qui s'appellent Comidas Rapidas, donc Fast Bites, et c'était un petit film de 4 minutes, et Mother Europe, que c'était un film de 5 minutes, et Normal. Et après, j'ai fait un diptyque qui s'appelle On Borders, donc les frontières incarnées, Embodied Borders. Et ces deux films sont le résultat d'un projet de recherche financé par Aix-Marseille Université. Et KR, c'est mon dernier film, c'est le résultat d'encore un autre projet qui vient après.
Votre travail interroge les parcours biographiques de personnes migrantes travailleuses du sexe. Vous présentez vos films comme des ethnofictions. Qu'est-ce qu'une ethnofiction pour vous et pourquoi est-ce que vous avez choisi l'ethnofiction comme outil de recherche?
Alors, pour moi, l'ethnofiction est un outil stratégique pour raisons méthodologiques et éthiques qui sont liées au sujet et qui sont au cœur de mon travail et aussi aux priorités éthiques des personnes directement concernées. Autant qu'ethnologue, ça fait 20 ans que je travaille sur les sujets des genres, sexualité et migration, donc notamment avec un focus sur le travail sexuel des personnes migrantes. Grâce à ce travail ethnographique, j'ai pu interviewer et être avec des personnes qui sont stigmatisées et criminalisées et aussi très fragiles au niveau de la documentation, donc irrégularisées. Et parfois, dans mon travail, je n'utilise pas recording, enregistrement. Je n'enregistre plus, par exemple, parce qu'il y a des personnes qui s'étaient quand on les enregistre. Et c'est quelque chose de très puissant. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai eu le privilège d'être dans des situations sans pouvoir enregistrer, sans vouloir enregistrer, ou juste pour ça, les personnes étaient en confiance, donc, mais racontaient leur vie du façon qu'elles n'étaient pas dans les cadres humanitaires qui sont plus écoutables, croyables au niveau officiel. Et c'est pour ça que j'ai commencé à développer différentes méthodes, dont l'ethnofiction, pour élever les voix des personnes directement concernées, problématiser les récits humanitaires qui font partie de la vie des personnes, mais qui sont un peu réductifs par rapport à leur complexité, et aussi faire des films qui montraient des vraies personnes, sans cacher leur visage, sans les fétichiser quelque part, ou rentrer dans des répertoires visuels qui ne mettent pas en valeur leur présence.
Et alors, comment est-ce que vous écrivez ces ethnofictions avec les personnes avec lesquelles vous travaillez?
Alors, dans mon premier film Normal, qui n'est pas une ethnofiction, ce que j'ai fait, j'ai utilisé des comédiens et des étudiants et aussi des comédiens professionnels pour mettre en scène des récits, des vrais récits, des 6 personnes qui ne rentraient pas dans les ce que j'appelle les frontières biographiques humanitaires, donc dans les récits qu'on peut écouter à l'OFPRA et qui sont jugés par rapport à des répertoires de crédibilité. Et là, c'était une première méthode. Après, avec Samira, ce que j'ai fait, c'est que je me suis plus rapproché à l'endofiction, mais c'était un peu différent parce que ce que j'ai fait, j'ai mis en scène l'acte d'observation ethnographique en utilisant toujours un comédien. Samira est l'histoire d'une femme trans algérienne aussi qui a obtenu le statut de réfugiée comme femme transsexuelle. Et là, j'ai mis entre guillemets parce que la catégorie des femmes transsexuelles, c'est une catégorie humanitaire. Ce n'est pas un terme transsexuel qui est utilisé maintenant au niveau dire culturel, social. Bref, et alors, ce qu'on a fait, c'est que la partie, le rôle de Samira a été joué par un comédien. Moi, j'ai joué mon propre rôle d'anthropologue et le film était sur 2 écrans pour permettre aussi de montrer les différentes relations de pouvoir que cette personne rencontre dans sa vie. Donc, dans les films, il y a Samira qui va chez les médecins, va à l'OFPRA, elle parle avec moi dans la maison, elle parle avec moi sur le trottoir. Et donc, pour permettre un peu de visualiser les dispositifs, visualiser les dispositifs des pouvoirs, les relations des pouvoirs qu'il y a, et aussi rendre présent le dispositif, et ça c'est quelque chose qui est un peu dans tout mon travail, c'est pour ça que je commence un peu à en parler là, de combiner une esthétique réaliste et des fictions finalement, avec un dispositif qui est toujours là, toujours visible, et qui permet de s'identifier avec les personnages, avec les histoires, mais quelque part nous empêche de complètement oublier que c'est un dispositif, que c'est de la fiction. Et en faisant ça, ce que je veux faire, c'est d'offrir la possibilité de réfléchir, d'être critique. Parce que les récits humanitaires, les récits de souffrance peuvent être assez captivants, peuvent être assez puissants. Mais après, il faut toujours, comme je suis plutôt postmoderne dans mon approche, il faut toujours s'en souvenir que tout récit est mis en scène. Même l'authenticité est mise en scène. Et donc, ces dispositifs, la visibilité de ces positifs me permet... et permet aux spectateurs, moi dans mes intentions, de garder et récupérer un espace critique. Avec Travel et avec KR, ça c'est vraiment de l'ethnofiction. Donc pour répondre à ta question, là ce qu'on a fait dans Travel, qui a été coécrit avec 8 femmes nigérianes assistées par l'association Les Bus des Femmes, ici à Paris, on a coécrit avec des impros un scénario, et après on l'a joué. Moi je suis dans les films dans ce cas-là, et les rôles de Joy, qui est une femme nigériane qui demande et obtient l'asile politique en France en tant que victime de traite, donc le statut de réfugié, le rôle de Joy est joué par une combinaison de mix de femmes de la communauté et aussi femmes qui ont écrit les scénarios. Ça, c'est pour maximiser la prise de parole directe et les protéger au niveau de leur identité par rapport à leur statut des travailleuses du sexe, mais aussi des femmes peut-être indocumentées. Et le même dispositif a été utilisé, on l'a utilisé à New York avec les protagonistes de KR. Mais là, elles ont dépassé le dispositif parce que finalement, les femmes translatinas qui ont coécrit avec moi le scénario et qui jouent des personnages qui ne sont pas trop éloignés de leur propre personnage, là, les femmes ont déjà un statut de visibilité différent parce que c'est des femmes trans qui peuvent être reconnues dans la vie, ce sont surtout des activistes. Et donc, elles n'étaient pas trop intéressées à être invisibles, je veux dire, à être assez cachées. Mais je leur ai laissé quand même cet espace pour se protéger et aussi pour parler en premier.
Nosotros vivimos en Queens. Nosotros necesitamos el respeto.
Esta es la mejor pose. Quedó bella ahí.
Nos vamos a tener una hora para poder hacer los carteles.
De ser puta, ¿qué?
De ser puta,
puta.
No me criminalista.
No. Soy la puta de la 82.
Sin gorrito no hay fiesta.
Oh, sin gorrito no hay fiesta. Sí, soy la puta que te paro.
Copia, copia de alguno.
Set work is work. Ese.
Set work is the work.
Set work is work.
Comment est-ce que vous écrivez collectivement ces ethnofictions, enfin vos films?
Ça dépend toujours du contexte et de la réalité et de ce qui marche pour les groupes. Avec les femmes nigérianes, c'était surtout des impro au niveau du théâtre. Parce que quand j'ai commencé le projet de film, il y avait déjà auprès de l'association Bus des Femmes des ateliers de théâtre. Donc les femmes avaient déjà l'habitude de faire des improvisations basées sur la vie quotidienne pour raconter, construire des récits. Donc, je me suis appuyé là-dessus. Donc, dans ce cas-là, c'était plutôt comme ça. Lorsque, avec les femmes trans-latinas à New York, c'était plutôt basé sur l'écriture. Mais moi, j'ai géré des ateliers d'écriture créative. Donc, j'ai posé des questions comme si on... Déjà, les films, dans les deux cas, des travel et des KR, faisaient partie d'un parcours, d'un projet de 4 ans. Basé sur l'ethnographie, donc c'est pas qu'on est débarqué et on a tout de suite demandé de faire un film ensemble sur des questions hyper intimes et aussi sensibles. Donc on a construit un rapport et après on a commencé à faire ces ateliers. Et donc dans le cadre de ces projets de recherche de longue durée, à New York, j'ai proposé de faire ces ateliers d'écriture et là j'ai commencé en faisant la question si on devait faire un film sur votre communauté, qu'est-ce qui se passe dans les films? C'est qui les protagonistes? Et pourquoi? Alors là, la demande pourquoi, c'est très intéressant parce que moi, j'ai utilisé la méthode du film ethnographique comme méthode de recherche. Parce que moi, je suis cinéaste, mais je suis aussi anthropologue, sociologue. Et donc, pour moi, le film participatif et le film ethnographique, c'était aussi une façon d'approcher et comprendre la réalité. Et là, vraiment, c'est ce qui m'a inspiré beaucoup de Jean Rouch, grâce au dispositif cinématographique. Donc, en posant des questions à travers l'écriture collaborative du scénario, il y a eu des informations beaucoup plus nuancées, plus incarnées, que non par rapport à un entretien plus classique et aussi plus profonde par rapport à une ethnographie plus classique.
Justement, vous l'avez dit dans vos films, pas tous les films, mais dans certains de vos films, vous vous mettez en scène. Donc on vous voit à l'écran. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est une manière pour vous d'affirmer votre posture vis-à-vis des personnes avec qui vous travaillez? Voilà. Quel personnage vous incarnez quand vous décidez de vous mettre en scène dans vos films?
Dans Samira et dans Travel, oui, j'ai décidé de me mettre en scène et de jouer mon propre rôle d'ethnographe, d'anthropologue, pour deux raisons. Pour montrer le travail de l'ethnographe aussi. De montrer le fait que la technique ou quand même la présence, ce qu'on fait, les questions qu'on pose, et aussi pour mettre en scène un des récits à travers lesquels on peut comprendre les personnages. Donc, dans Samira, moi, je pose des questions provocatrices, que je connais, la réponse de laquelle je connais déjà, pour permettre à Samira de parler des différences entre moi et elle, Et donc, je voulais montrer le travail d'ethnographe. Dans Travel, je voulais aussi montrer les questionnaires, les petits outils qu'on a et aussi les contextes. Les contextes des recherches qui entourent un peu ces films. Parce que finalement, c'est un film qui sort d'un projet de recherche. Et donc, il faut aussi montrer l'acte de la recherche. Je trouve qu'on ne le montre jamais. Comme on ne montre jamais la frontière humanitaire dans Samira et aussi dans Travel, mais aussi dans Caire. Je mets en scène beaucoup la construction du récit par rapport aux autorités. Dans le cas de Caire, c'est l'avocat, et dans le cas de Travel et de Samira, c'est l'OFPRA. Et donc, c'est dans ces deux cas-là, vraiment, c'est deux films que moi, je considère que dans Normal, moi, j'ai mis en scène l'acte de l'entretien, parce que tous les films, c'est l'entretien, et moi, je pose des questions. Je ne suis pas là, mais ma voix, on l'entend, parce que je pose des questions. Et lorsque le diptyque and Borders, c'est vraiment un film sur le sujet des frontières biographiques et tout ça, mais aussi sur l'acte d'observation ethnographique. Lorsque Caire, c'est autre chose, parce que dans Caire, je n'ai pas voulu me mettre en scène, j'ai trouvé que c'était autre type de film.
Samira, chérie.
Ça fait longtemps.
Oui. Oui, ça fait vraiment longtemps que je ne te vois pas. Je t'ai appelé, tu sais, je t'ai cherché partout. Tu étais où?
Des fois, je commence tôt et je rentre chez moi si j'ai assez de clients. Moi, je vais changer de vie. Bientôt, tu ne vas plus me voir ici. C'est bon, dès que j'ai les papiers, je rentre en Algérie, je ne travaille plus tout ça. Je ne suis pas comme ces putes là-bas, tu sais. Moi, je suis un vrai mec, comme mon père. Elles, leurs parents, c'est des putes et des PD. Ils acceptent, c'est comme les Français.
Bon, quand même, ma chérie. Tu te vois comme ça, un vrai mec, ça fait pas trop. Pardon si je rigole, mais...
Tu dis ça parce que t'es Français.
C'est pas Français, moi, je suis Italien, tu le sais bien.
Je sais que t'es Italien, mais quand même, t'es Français. Tes parents, ils acceptent que t'es PD, non?
Oui, mais on arrivait là doucement, tu sais. Avec ma mère, c'était plus facile, mais avec mon père, hein, il a fallu comme 30 ans. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est pas comme ça. Moi, je suis Algérien. D'accord? Et je suis un vrai mec comme mon père. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il arrête pas de repasser depuis tout à l'heure.
Je te laisse tranquille, chérie. Hein? Ouais. Tu as travaillé?
Ouais.
OK, j'y vais. Mmh. Bon, oui, j'y vais. Je t'appelle.
OK, okay. Merci.
Ciao, ciao. Ciao.
Effectivement, vous vous mettez en scène en tant qu'ethnographe, mais ce qui est intéressant dans Samira, c'est que vous mettez aussi en scène votre relation affective avec le personnage. Que vous appelez ma chérie, enfin, on sent qu'il y a un lien affectif. Ça nous a beaucoup plu, parce que c'est des choses qu'on voit rarement, qu'on essaie en tout cas de dire dans la recherche, mais qu'on dévoile peu finalement les liens affectifs qu'on a avec les personnes avec lesquelles on travaille.
Oui, merci pour cette question. Je trouve que c'est très important de sortir du positivisme, même si c'est décliné d'une façon très fluide, mais il y a toujours cette idée que la distance, c'est la meilleure position pour observer les choses, pour comprendre les choses. Et là, moi, je ne suis pas du tout d'accord. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Mobile Orientations » et qui vraiment débat le fait que c'est la proximité et c'est les relations avec les gens qui permet de comprendre les choses. C'est grâce à cette relation et ensemble avec la personne avec qui on fait la recherche que la connaissance émerge. Donc, avec Samira, oui, bien sûr qu'il y avait une amitié. Mais ça n'empêche pas qu'il y avait une distance ethnographique, une distance aussi abyssale par rapport à nos parcours de vie. Et c'est pour ça qu'elle me traite des Français à un certain moment. Quand je lui fais la blague, et c'était ça la question provocatrice, et quand je lui dis « finalement, pourquoi tu t'es pas paxé ?» Je savais que j'allais la chercher parce qu'elle m'a dit, finalement, ça, c'est vous, les Français, c'est vous, les bourgeois privilégiés du Nord global, qui vous pouvez permettre tout ça. Moi, avec mon histoire, je ne peux faire ça. Je suis un mec comme mon père. Tu vois? C'est ce que vous pouvez dire. Moi, j'ai un autre régime de subjectivité par rapport à tout ça. Mais je pense que c'est très important de démonter cette fiction que la connaissance est produite d'une façon extractive, d'une façon à travers la distance, à travers l'objectivité. L'objectivité, dans l'art technographique, ça veut dire être conscient de ton pouvoir, être conscient de ta positionnalité, être conscient de ce qui se passe, et après, extraire tout ça de l'information, de la relation, et voilà les infos qui restent. Ce n'est pas se mettre en jeu. Si tu ne te mets pas en jeu, ça ne se passe rien. Les gens te voient venir comme un météorite pourquoi devrait-elle dire des choses d'elle si tu ne donnes rien de toi? Ce n'est pas éthique et ce n'est pas réciproque. Et ça n'empêche pas qu'il y a des différences, c'est qu'il y a des distances. C'est juste qu'il faut être au courant et travailler avec ça.
Vous utilisez le terme frontière humanitaire, ouais. Et j'aimerais bien que vous le définissiez pour qu'on comprenne bien ce que vous entendez quand vous utilisez ces termes-là.
Alors moi, j'étais beaucoup inspiré par le travail de Didier Fassin et de Myriam Tichtine, donc tout ce qui est le travail et autres aussi, le travail sur ce qui sont les frontières humanitaires, donc les politiques de compassion, comme le dirait Didier Fassin. Donc les récits des souffrances grâce auxquelles on a accès à la crédibilité auprès des institutions humanitaires. Si on raconte notre histoire, notre vérité, hein, d'une façon qui est crédible, alors on franchit une vraie frontière. On nous donne des papiers. L'OFRA, c'est une vraie frontière, même si c'est en France, mais ça donne accès au pays. Parce qu'on nous donne un récépissé, et après la cour d'asile, c'est encore une autre frontière, parce qu'avec la cour d'asile, si on est accepté, on a les papiers. Donc même si ce n'est pas une frontière physique au niveau d'un territoire, à la ligne de démarcation entre un État et l'autre, ou même à l'intérieur comme un aéroport, c'est une frontière dématérialisée, mais quand même assez importante. Et il y a des récits très standardisés qu'on attend de la partie des institutions qui donnent la protection humanitaire, mais aussi qui circulent parmi les migrants en disant, bon, si tu racontes ton histoire comme ça, peut-être que tu as plus de chances. Et aussi les avocats et tous les gens des institutions qui travaillent dans la protection, ils orientent les personnes à mettre en valeur des aspects plutôt que des autres. Donc il ne s'agit pas de mentir comme Samira, elle précise dans les films. Il s'agit juste de mettre en valeur certaines choses dans ton parcours de vie, dans ton récit de vie, et pas des autres. Parce que comme elle dit dans les films, c'est un peu le leitmotiv de Samira, c'est la souffrance qui est dans les papiers, c'est pas le bonheur. Et quand je lui dis, mais tu as menti, je dis, mais non, j'ai pas menti, c'est juste que j'ai raconté, j'ai dit les choses qu'ils veulent écouter là. Si j'avais raconté que, oui, je me suis fait larguer de mes parents, j'étais abusé, tout ça, mais j'ai aussi du bonheur dans ma vie, ça m'aurait un peu pas favorisé, ou quand même ça n'aurait pas aidé la crédibilité de mon récit. Donc c'est ça que je parle, des frontières humanitaires biographiques, ce sont les histoires qui sont quelque part certifiées et retenues comme crédibles de la part des frontières humanitaires et qu'elles agissent comme des vraies frontières.
On va clôturer. Où est-ce qu'on peut visionner vos films, Nicolas May?
Alors, mes films sont tous disponibles sur Vimeo. On peut les chercher avec Google, Nicolas May Vimeo, et ils sont tous là. Ils sont en vente je pense que c'est 6 euros. Donc, on a décidé de mettre un prix plutôt accessible, juste pour vraiment couvrir les prix de la mise en vente, pour les rendre disponibles. Et sinon, aussi sur mon site www.nicolamay.org. Et là, il y a un peu des infos sur moi, mais aussi il y a les liens sur les films et quelques infos pour pouvoir choisir lequel on peut regarder.
Eh ben, merci beaucoup.
Merci à vous.
Translucide, une émission d'anthropologie sur Radio Campus Paris.
Une si longue marche est le récit de la migration de crabes, dits crabes chinois, du printemps à l'automne. Les crabes remontent les cours d'eau, faisant fi de tous les dangers. Mais ces crabes venus de Chine sont également redoutés. Ils envahissent les villes de Flandre, en Belgique, par milliers, bouchent les canalisations et grimpent jusque dans les lits. Heureusement, ils croisent aussi le chemin de deux petites filles qui portent sur eux un regard curieux et poétique. Que voient les crabes? Comment communiquent-ils? Les petites filles mènent l'enquête. Une si longue marche nous invite à interroger le regard que nous posons sur les espèces qui nous entourent. Nous sommes au musée du Quai Branly dans le cadre du festival Jean Rouch. Bonjour Dominique Laureau.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, écrivaine et photographe. Vous avez réalisé le film Une si longue marche, présenté dans la catégorie Cap sur l'environnement du festival Jean Rouch. Donc, Une si longue marche est un récit de voyage, une épopée qui suit la migration des crabes, dits crabes chinois, du printemps à l'automne en Flandre. Pour commencer, comment est-ce que vous êtes intéressé à ces crabes et pourquoi vous avez voulu raconter leur histoire?
Mais en fait, j'ai entendu à la radio, donc fin 2016, qu'il y avait des crabes chinois qui posaient problème en Belgique. Et je ne connaissais pas du tout ces crabes. Et donc, on les accusait, en fait, d'envahir une petite ville flamande. Mais vraiment, envahir depuis la cave jusqu'au grenier, ils envahissaient les maisons du bord de la rivière. Aussi, de boucher les filtres d'une centrale nucléaire à Doul, donc le long de l'Escaut. Quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant que des petites bêtes puissent nous poser de tels problèmes, en fait, et puissent nous rendre aussi fragiles, parce qu'une centrale nucléaire, quand même, c'est censé être vraiment très solide. Voilà, et que personne n'avait imaginé qu'un problème viendrait de là, quoi, de sous l'eau, voilà, de petites bêtes qui viendraient sous l'eau. Et bon, il y avait ça que je trouvais vraiment intéressant sur l'état de là où on en était, en fait, quelque part. Et puis, il y avait le fait qu'ils étaient considérés comme nuisibles, que je trouvais aussi intéressant. Pourquoi nuisibles, voilà. Et puis, il y avait le fait aussi qu'ils fassent une migration. Donc, qu'ils viennent de la mer et ils remontent dans les rivières, mais parfois jusqu'à 2500 km à l'intérieur des terres. Et puis, après 4-5 ans, quand ils ont bien grandi, ils retournent vers la mer pour pondre et se reproduire, et puis ils meurent. Voilà, donc il y avait ces trois choses-là que je trouvais intéressantes, qui parlaient de notre époque et de notre fragilité face à des phénomènes comme ça qu'on ne maîtrisait pas vraiment. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des repérages. Donc, à Arscott, à Doul, je me suis intéressée à la chose. J'ai rencontré des scientifiques, etc. Et voilà, donc j'ai remis un projet. Et puis j'ai commencé à faire le film.
Eriocher sinensis, ou crabe chinois à mitaine, ou crabe chinois poilu, ou crabe poilu de Shanghai.
Bon, crabe chinois. Ah, voilà.
Il y a beaucoup de textes et pas beaucoup d'images.
Non, c'est des menus. Regarde ici. Voilà.
Oh, des pinces. Oh.
Et là, c'est un restaurant qui vend que des crabes chinois.
Ah ouais, ça se voit. Bah, il est vide, hein.
Alors, les crabes chinois sont une espèce exotique qui s'est implantée en Belgique à partir des navires venus de l'international. S'ils font le délice de nombreux Chinois, les crabes installés en Belgique ne sont pas comestibles, puisque beaucoup trop chargés en métaux lourds. De quoi stopper net toute une velléité de pêche miraculeuse.
Votre film donne à voir plusieurs regards, notamment celui des crabes en migration, celui de deux enfants qui enquêtent sur ces crabes et sur la manière dont ils vivent, celui aussi d'un groupe d'amis chinois exilés qui célèbrent la fête de la mi-automne durant laquelle on déguste ces crabes. Qu'est-ce que ça permet d'apporter à la narration de votre film, cette pluralité de regards, et qu'est-ce que ça dit en fait de la diversité des relations qu'on entretient avec le vivant en général et les autres espèces?
En fait, mon idée, c'était donc de suivre la migration de ces crabes, donc de partir avec eux et de rencontrer diverses personnes qu'ils croisaient sur leur chemin. Donc, il y a d'abord un ancien éclusier dont la maison a été complètement envahie, plusieurs fois d'ailleurs, parce que c'était assez récurrent et c'est, semble-t-il, à cause du réchauffement climatique que ces crabes sortent plus souvent de l'eau, parce qu'il y a des pluies beaucoup plus fortes, et bon, donc il y a un problème d'oxygénation de l'eau, et puis il y a l'écluse qui bouche le passage, etc. Et aussi la Flandre, c'est-à-dire ceux qui vivent autour de la rivière et tout ça, pour qui ça pose vraiment problème, parce que ce sont des crabes qui viennent d'ailleurs, qui sont une espèce invasive et qui sont donc très mal vues. Et qu'en plus, on ne peut pas manger donc, parce qu'ils sont pollués, vu que les rivières sont polluées. Donc, on leur rejette un peu toute la faute de, enfin, de ce qui arrive, alors qu'en fait, ces pauvres crabes sont venus, on les a importés par accident. Et en plus, s'ils sont pollués, c'est que nous avons pollué les rivières, quoi. Donc, on a de nouveau inversé les choses. Donc, je trouvais que c'était intéressant de voir ce regard-là. C'est que c'est un regard très occidental et utilitariste. C'est-à-dire que ces crabes, on n'en a pas besoin, ils ne nous servent à rien, puisqu'on ne peut pas les manger et puisqu'on ne peut rien en faire. Donc, ce sont des invasifs nuisibles. Et donc, il faut les détruire. Donc il y avait cet aspect-là que je trouvais vraiment intéressant, notre rapport à l'utilité des animaux ou des plantes. Et puis il y a le rapport à des petites filles qui, elles, bon, ben, sont des enfants, donc elles s'intéressent beaucoup plus à tout ce qui est animal, animalité. Bon, il y a une vraie curiosité, quoi, des enfants. Il y a un rapport beaucoup plus animiste aussi aux animaux, qu'il n'y a pas cette coupure entre nature et culture qu'on retrouve après. À partir de l'adolescence quand même, on retrouve ça, qui est une position évidemment apprise. Et puis, donc j'aimais bien le fait aussi, le côté ludique de ces deux filles qui essayent de voir comme les crabes, etc. Et puis, il y a les amis chinois qui, eux, ont un rapport complètement différent à ces crabes. C'est-à-dire que, bon, ben, eux, ils vont les manger parce que dans leur tradition, on les mange. Enfin, c'est les Chinois du côté de Shanghai. C'est pas tous les Chinois, c'est une partie des Chinois qui connaissent ces crabes, qui ont grandi avec ces crabes, parce que tous les exilés qui sont là dans le film... viennent de la région de Shanghai et sont venus quand ils avaient 20-25 ans. Donc, ils ont vécu en Chine avant, ils ont mangé ces crabes. Et c'était effectivement pour la fête de la mi-automne, lors de la pleine lune. Et ce que je trouvais intéressant, c'est effectivement qu'ils les mangent. Donc, quelque part, je trouve que c'est plus intéressant que les gens les mangent. Parce qu'au moins, ils apprennent à les connaître, ils se nourrissent d'eux, donc ils se remplissent d'eux quelque part. Et ils les peignent, ils les écrivent. Je dirais, il y a des romans qui ont été écrits où il y a des repas de crabes comme ça. Donc il y a quelque chose de culturel que je trouve... C'est lié aussi à la pleine lune. Parce qu'en Chine, les lunes sont très très importantes, quoi, toutes les lunes. Et là, c'est la lune de la mi-automne, qui est vraiment une des plus belles pleines lunes, quoi, les lunes rousses. Et puis, c'est lié aux crabes aussi, dans la mesure où la pleine lune influence la vie des crabes. C'est-à-dire qu'ils influencent les marées. Et donc, les crabes remontent la marée. Quand ils remontent, vers les rivières, ils profitent des marées montantes pour avancer, et quand ils descendent, ils profitent des marées descendantes pour descendre. Et donc, en fait, les Chinois mangent ces crabes en automne. Donc, c'est les gros crabes qui redescendent vers la mer. Et donc, évidemment, il y a une sorte de cycle qui est important pour eux. Voilà, donc c'est un peu des visions très, très différentes et qui sont contradictoires quelque part. Enfin, à la fois complémentaires, mais fort contradictoires. Et que j'avais envie de montrer.
Est-ce que tu crois qu'un crabe, ça rêve ?
Un crabe ? Je ne sais pas. Une mouche, ça rêve. Mais un crabe...
Est-ce qu'un crabe a une mémoire ? Une cervelle, quoi.
Bah, toi aussi, tu peux réfléchir. Hein. Je suis pas scientifique.
Ok, une mémoire d'éléphant, moi, je crois.
Des crabes.
Oui, parce que ça doit être super malin pour aller. Oui, pour savoir de. Je sais pas, moi, s'il y a.
Si tu veux, s'ils savent où ils doivent aller, c'est parce qu'ils ont un instinct. Tu vois, leur vie, c'est faire le tour qu'ils font.
Il y a un élément qui est assez remarquable dans votre film, c'est le changement de ton. Au début du film, on suit un groupe de crabes qui migrent au printemps et on a vraiment des scènes dramatiques qui nous montrent ces crabes qui se confrontent à des obstacles. Ensuite, on arrive dans un registre un peu plus inquiétant avec ce témoignage justement de l'éclusier qui raconte le sentiment d'invasion, d'envahissement où on perçoit subitement les crabes comme des nuisances, des nuisibles. Et puis ensuite vient le registre plus ludique, comme vous disiez, des petites filles qui apportent un autre regard, un décentrement vraiment sur ces crabes, en essayant de comprendre comment ils communiquent, ce qu'ils peuvent se raconter, de quoi ils rêvent. Donc c'est un autre ton. Et puis après, effectivement, la joie de se retrouver dans les souvenirs du pays qu'on a quitté avec ce groupe d'amis de Shanghai. Et puis cette fin avec le dernier voyage des crabes, avec des images vraiment spectaculaires de ces crabes pris dans des tempêtes sous-marines. Et justement, on s'est demandé quel dispositif vous aviez mis en place pour réussir à filmer, mettre en scène ces animaux, les crabes, et comment vous aviez procédé, en fait, pour les filmer, les mettre en scène, comment on met en scène des non-humains.
Et au début, effectivement, je ne le savais pas du tout, puisque je ne connaissais pas ces crabes. Donc... Il y a des scientifiques qui les ont capturés, puisqu'ils les capturaient dans des pièges. Je leur ai demandé de m'en donner. Donc d'abord, c'était les petits crabes au printemps. J'en ai eu à peu près 100, 150, je ne sais plus. Et on les a mis dans une baignoire. Et on les a observés d'abord dans la réalité, et puis on les a observés aussi dans la baignoire. Et on les a fait petit à petit jouer dans le film, mais de manière plutôt imaginaire, quoi. Je veux dire, c'est plus des parties oniriques où effectivement ils envahissent une église, ils envahissent certains lieux. On a fait rejouer, disons, de manière imaginaire cet envahissement. Alors comment... Oui, c'est-à-dire que les crabes, ils sont très peureux. Ils ont très vite compris, ils sont très intelligents. Et ils ont très vite compris, si on essaye de les faire rejouer une scène, que ça ne sert à rien pour eux. C'est-à-dire que si on les met quelque part, par exemple sur le sol d'une église, ben, ils vont essayer de fuir, d'aller se cacher, d'aller trouver... Enfin, voilà. Et puis, si on les... refait jouer la même chose, eh ben, ils n'ont plus envie, la plupart. Donc, il fallait profiter chaque fois de nouveaux crabes pour faire reprendre les scènes, parce qu'ils ont très vite compris que ça ne sert à rien de recommencer les mêmes choses, quoi. Et alors, ils restent la plupart du temps immobiles et ils n'ont plus envie de bouger. Donc, il fallait déjà comprendre ça, mais enfin, ça, on comprend assez vite. Et petit à petit aussi, ils se sont habitués à nous. Donc, on les nourrissait. Enfin, c'était le caméraman surtout, caméraman et moi, on les nourrissait et puis ils étaient, petit à petit, ils avaient de moins en moins peur. On leur avait fait des tas de cachettes dans la baignoire pour qu'ils puissent se cacher parce que sinon ils avaient envie de sortir de la baignoire. Donc voilà, on a dû comprendre comment ils fonctionnaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils vivaient, comment ils communiquaient entre eux, tout ça. Et puis les gros crabes, on les a reconnus plus facilement aussi, comme ils étaient vraiment gros. Ça, c'était plus facile quelque part de reconnaître ceux qui jouaient bien de ceux qui jouaient pas bien. Parce qu'on en avait moins, on en avait à peu près, on en a eu une vingtaine seulement. Et donc là, on savait quel crabe pouvait recommencer certaines prises et bien jouer, et quels autres n'avaient pas du tout envie de jouer, quoi. Voilà, donc on a joué avec ça. C'est très hasardeux et très dans l'immédiateté des choses comme ça. Enfin, il y a pas un dispositif qui marche pour tous les crabes, quoi. Mais effectivement, on reconnaissait certains individus parmi les crabes, quoi. Qu'est-ce que vous avez appris du cinéma en filmant des crabes? Est-ce que ça vous a appris quelque chose dans votre pratique filmique?
Dans ma pratique filmique, j'ai appris surtout que... on a filmé ces crabes, c'est-à-dire que petit à petit, on est rentré dans leur monde. Et le film est le parcours de ça, de cet apprentissage de rentrer dans leur monde. Parce qu'en fait, le caméraman et moi, comme on ne les connaissait pas au début, on les filme fort de l'extérieur. Et puis petit à petit, on rentre dans leur monde et on rentre sous l'eau, carrément. Et on les accompagne sous l'eau jusqu'à presque se prendre nous-mêmes comme des crabes. Quand les oiseaux viennent les attaquer, on est presque en plan subjectif, quoi. Et donc voilà, c'est un parcours qu'on a fait à force d'être tout le temps avec ces crabes et de les connaître. On a fait ce parcours de presque devenir en quelque sorte un peu crabe. Qu'est-ce que ça m'a appris sur le... Un moment appris sur le vivant. Bon, ce que je trouvais intéressant, c'était de jouer avec tous les autres éléments aussi, quoi. Il y a les humains, évidemment, mais il y a aussi tous les éléments comme la lune. On a essayé de les faire revenir comme des sortes de refrains. L'attraction pour la mer, dans le montage, on l'a mis comme un refrain parce qu'en fait, la mer et la lune sont vraiment très, très importants. Et puis, il y a l'eau, les reflets, enfin, tout ça, c'est le vent, la pluie, enfin, tous les éléments... sont presque, disons, animés, ont presque une puissance vitale, quoi, eux-mêmes, quoi. Donc voilà, c'est ça que je trouvais intéressant de rentrer dans ce presque dans la vision des crabes, entre guillemets, hein, parce que je ne peux pas dire que on ne peut pas se substituer, il reste toujours mystérieux, mais d'essayer en tout cas de comprendre le monde comme eux,
pourrait éventuellement le voir, quoi. Voilà. Donc c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant.
Merci beaucoup, Dominique Laureau, d'avoir accepté d'échanger sur ce beau film.
Merci aussi. Translucide, une émission d'anthropologie sur Radio Campus Paris.
C'est la fin de cette émission consacrée au Festival Jean Rouch. Le festival se déroule en ce moment et jusqu'au vendredi 26 mai. Vous pourrez y découvrir de nombreux films, plus passionnants les uns que les autres, mais également des ateliers de réflexion et des temps d'échange. Ce soir, c'était notamment le vernissage de l'installation immersive Cargo, d'Anne de Giaferi et Christian Delécluse. C'est une installation qui interroge les mobilités en Méditerranée à travers une multitude de récits et de trajectoires singulières. L'installation s'inscrit dans une approche art-science interdisciplinaire basée sur des témoignages et des collaborations scientifiques. Ça se passe à la station Gare des Mines jusqu'au dimanche 21 mai. On se retrouve mardi 13 juin pour le second épisode de notre série dédiée aux catastrophes. En attendant, n'hésitez pas à aller écouter le premier épisode. Nous avons reçu Maëlle Calandra, une anthropologue qui travaille notamment sur l'île de Tongoa, au Vanuatu, dans le Pacifique, un des endroits du monde le plus exposé aux aléas climatiques extrêmes. On vous laisse l'écouter en podcast sur le site de radiocampusparis.org et sur Spotify.